L'affaire Dreyfus. Palinodi. Dans une feuille que je ne lis jamais et dont je reçois, par l'entremise d'une agence, les coupures que, d'ordinaire, je ne lis pas davantage, on reproduit d'antiques articles que je publiais aux Grimaces et que l'on me reproche amèrement d'avoir changé d'opinion sur les Juifs, les patriotes, les militaires, les je ne sais qui, les je ne sais quoi. La chose est parfaitement exacte. J'ai fait cela et je m'en vante. La feuille en question eût pu cependant me tenir compte de ceci, que, à aucune époque de mon existence, et même au plus de mes palinodies, je ne variais jamais sur la conviction où je suis de la prodigieuse stupidité de M. Henri Rochefort et de sa canaillerie plus prodigieuse encore. Je regrette qu'elle n'y ait pas songé. Mais, en thèse générale, cette feuille a raison, et j'ai donné, je l'avoue, le plus déplorable exemple d'inconsistance qui se puisse voir. Ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas il y a 10 ans. Ce que je fus il y a 10 ans, je ne l'étais pas il y a 20 ans. Et dans 20 ans, à supposer que je sois encore, je veux espérer, oui, je pousse le cynisme jusqu'à espérer que je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime des personnes, des choses, des idées, qu'autrefois je détestais. Et je déteste des idées, des personnes que j'ai aimées jadis. C'est mon droit, je pense, et c'est mon honneur. Et c'est aussi la seule certitude par quoi je sente réellement que je suis resté d'accord avec moi-même. Et je vais plonger l'intellect, si j'ose dire, de M. Cellarius dans un profond désarroi. Il n'importe. La joie d'un homme qui n'est pas un politicien, qui ne sert aucun parti ni aucune bande, ni aucun fonds secret, et pas plus Dupuis que Jules Guérin, pas plus Mandrin que Cavaignac, et Cartouche que Zurlinden, est d'acquérir, chaque jour, quelque chose de nouveau dans le domaine de la justice et de la beauté. L'harmonie d'une vie morale, c'est d'aller sans cesse du pire vers le mieux. Devant les découvertes successives de ce qui lui apparaît comme la vérité, cet homme-là est heureux de répudier un à un les mensonges où le retiennent si longtemps, prisonnier de lui-même, cette terrible chaîne de la famille, des prêtres et de l'État. C'est plus difficile qu'on ne pense d'effacer ces empreintes, tant elles sont fortement et profondément entrées en vous. Il faut des efforts persistants qui ne sont pas à la portée de toutes les âmes. Il faut passer par de multiples états de conscience, par bien des enthousiasmes différents, bien des croyances contraires, par des déceptions souvent douloureuses, des troubles, des erreurs, des luttes, et ne pas les maudire, pas même les regretter, puisque c'est tout cela, puisque c'est dans tout cela que c'est peu à peu recréer votre personnalité. Ah, voilà des aventures morales, des drames intérieurs, comme il ne doit pas en arriver souvent à cette intelligence de bronze, à ce cœur d'airain, à ce penseur impassible qu'est M. André Vervoort, si je puis m'exprimer ainsi. Malgré ses affreuses tristesses et ses uniques douleurs, malgré tant d'infamies dévoilées et tant de crimes encore inconnus, il faut bénir cette affaire Dreyfus de nous avoir en quelque sorte révélés à nous-mêmes, d'avoir donné à beaucoup d'entre nous, trop exclusifs ou trop sectaires dans leur compréhension de la vie sociale, un sens plus large de l'humanité, un plus noble et plus ardent désir de justice, qui est le lien le plus solide entre des races qui finiront bien par se lasser d'être ennemies. Admirons, je vous en prie, les braves gens qui, du berceau à la tombe, n'eurent jamais qu'une idée, ce qui équivaut à n'en avoir pas du tout, sont demeurés fidèles, ce qui veut dire qu'ils ne furent fidèles qu'à leur propre sottise, et sur qui l'étude, l'observation quotidienne, l'expérience et les révélations de la vie, l'enseignement des faits, les surprises de l'histoire, ont passé, sans avoir pu modifier quoi que ce soit à leur organisme intellectuel, à ce que, par un euphémisme inconvenant, ils appellent sans rougir leur idéal. C'est à croire qu'ils n'eurent ni un cœur, ni des bras, ni des jambes, ni rien par quoi l'on marche, voit, pense et aime. Pauvres larves qui dormirent sous les pierres leur lourd sommeil de néant. « Moi, mon cher maître, disait un jour à Ernest Renan, un fier jeune homme, moi, je n'ai jamais varié dans mes convictions. » À quoi l'admirable philosophe des origines du christianisme répondit avec cette douceur ironique et délicieuse qu'il avait, « Combien je vous envie, c'est donc que vous n'avez jamais pensé. Je sais bien qu'il y a aussi le syndicat des 37 millions et que j'y ai sans doute puisé à pleine main de considérables sommes que, dans leur hâte à se gorger d'or, M. Manot et M. Barre, ces vendus et ces traîtres, laissèrent si maladroitement aux autres. Mais ceci est une autre histoire. Donc, j'ai détesté les Juifs, et cette haine, je l'ai exprimée dans les grimaces. Qu'on me comprenne bien, je sortais, quand je fis les grimaces, du Gaulois, que dirigeait M. Arthur Meyer. Comment eût-il été possible, j'en appelle à tous les cœurs passionnés, que la fréquentation journalière de M. Arthur Meyer m'inspira d'autres sentiments. On conviendra que rien n'était plus naturel, plus légitime et d'une plus irréprochable psychologie. Bien qu'il fût parfois charmant, M. Arthur Meyer avait ceci de mystérieusement attractif qu'il appelait l'antisémitisme comme Jésus le miracle. Il y avait en lui, malgré lui, une telle force spontanée de propagande que lui-même n'a pas pu y échapper. Il serait touchant et à la fois comique de penser que c'est par une violente protestation contre lui-même que M. Arthur Meyer est devenu l'antisémite farouche que vous savez. Quoi d'étonnant à ce que je le sois devenu moi aussi. Mon tort, en cette circonstance bien parisienne, fut de conclure du particulier au général et d'englober toute une race dans une réprobation qui eût dû rester strictement individuelle, à moins que je ne l'étendisse à beaucoup de chrétiens qui sont parmi les plus détestables juifs que je connaisse. Je me suis d'ailleurs, il y a longtemps, expliqué sur ce point dans La France. Pour peu que cela intéresse quelqu'un, on pourrait retrouver en ce journal un article où je me repentais de ma barbarie. Mais je ne viens pas me disculper, j'ai mieux à faire. Et je saisis l'occasion qui m'est offerte, c'est la seule raison d'être de cet article, d'apporter à un homme que j'ai méconnu et que j'ai beaucoup attaqué, un témoignage public de mon affection et de mon admiration. C'est de M. Joseph Fraynac que je veux parler. Je dois confesser que ça n'était pas très brave, car je ne crois pas qu'il y eût alors quelqu'un de plus impopulaire que M. Joseph Fraynac, et la besogne est facile, facile aussi, le succès, d'insulter un homme voué d'avance et quoi qu'il fasse, à toutes les calomnies et à toutes les injustices. Eh bien, je l'ai vu, cet homme-là. J'ai vu son courage tranquille et joyeux sous les huées et les menaces, son dévouement désintéressé, son amour acharné de la justice, son espoir qui, pas une minute, n'affaiblit. Et j'ai admiré son talent, à qui nous devons, entre tant de choses belles, la voix de Lille, qui est parmi les plus belles choses de ce temps. Et, à mesure que je le connaissais et que je l'aimais chaque jour davantage, j'aurais bien voulu effacer de mon œuvre, si éphémère, si vite oubliée, certaines pages méchantes, avec le remords de les avoir écrites. Maintenant, C'est fait. L'Aurore, 15 novembre 1898.